Good afternoon, everyone.
Heather, bonjour à tous. Nous avons, c'est-à-dire, il y a besoin de faire plus de place autour de la table pour accueillir nos collègues. Je vous prie de mettre un peu plus de chaises entre le Mexique et le pays d'à côté. Voilà, vous êtes de bons voisins. Et ici à droite, je vois bien qu'il y a de la place quelque part, près de la Bulgarie. Merci. Et la Suisse. Bien, OK. Il y a encore une autre place ici? Tout le monde a pris place déjà? OK, génial. Merci aux membres du conseil d'administration d'être venus se réunir avec nous cet après-midi. Nous avons plusieurs sujets à traiter. Il y a certaines questions que nous voulons vous poser aussi. L'un d'eux a été identifié par l'une des questions a été identifiée par le Conseil pour être traitée dans cette session. On va commencer dès que possible parce que normalement on a plus de temps dans la session, c'est-à-dire il nous manque du temps, mais on va faire tout le possible pour traiter de toutes les questions. Tout d'abord, nous voulons poser quelques questions ou quelques soucis concernant la manière dont les PIC, Public Interest Commitment, vont être résolus et comment on va aborder l'aspect de la résolution de litige. Et puis après, on va poser une question sur la candidature pour le point IDN par rapport aux engagements d'intérêt public. Par la suite, nous aimerions discuter les protections aux OIG et d'autres questions liées au GTLD. Nous voudrions parler de la du conflit entre les chaînes de caractères, des questions qui apparaissent avec le pluriel des mêmes mots, les mots au pluriel et au singulier. Et nous avons aussi une question à poser sur le processus à suivre en matière de l'établissement d'un niveau de soutien au gouvernement pour un nom géographique et comment on va inclure tout cela dans le processus au cas où il y aurait un panel géographique ou quelque chose de la sorte. Nous avons donc une question spécifique par rapport à cet aspect du processus. Nous allons aussi poser une question sur la date du 23 avril et voir quel est le rapport avec les IDN qui ont reçu la priorité et qui doivent être inclus dans le processus, de sorte à ce qu'il s'agit d'une question sur des délais, à propos des délais. Par la suite, on va parler de l'accord d'enregistrement des bureaux d'enregistrement, l'accord d'accréditation, pardon, des bureaux d'enregistrement et des questions concernant les organismes d'application de la loi. Nous voulons renforcer le conseil que l'on a donné au conseil d'administration sur la question. Vous allez pouvoir mettre à jour, mettre au point certaines questions par rapport aux négociations. Nous voudrions parler aussi de l'éthique, des conflits d'intérêts, savoir quel a été le progrès de cette question en particulier. Par la suite, nous allons inclure des questions sur le Comité international olympique et la Croix-Rouge. Nous pensons que l'on a établi de nouveaux bureaux et on va vous poser des questions sur la création de ces bureaux et savoir comment ils ont été établis. On va parler aussi de la TRT2. Et nous reconnaissons que l'ordre du jour est assez complet. Alors, nous allons bien travailler. Avant de continuer dans les engagements d'intérêt public, on m'a suggéré de faire des commentaires sur les activités du GAC en matière des GTLD, notamment pour les non-sensibles ou controversés. Je crois qu'il y a un peu de confusion sur la manière dont nous avons abordé la question. Il y a deux parties dans notre ordre du jour. La première, basée sur les catégories. Nous allons donner un avis, notamment sur les sauvegardes, ce que nous appelons conseil sur les sauvegardes pour ces catégories. Et nous allons inclure une liste indicative des chaînes de caractères qui sont importantes pour le conseil de sauvegarde. Dans la deuxième partie de notre ordre du jour, nous allons inclure les objections potentielles, les candidatures pour les objections considérées par le GAC et où le GAC a considéré de donner un conseil basé sur le consensus sur une candidature spécifique ou s'il existe une chaîne de caractère, le conseil sera ciblé sur cette chaîne de caractère. Voilà donc les questions à traiter. Nous espérons bien que cette réunion sera utile pour tous ceux ayant des questions sur le processus. C'est la moitié du processus, à vrai dire, parce que le processus est en cours. Steve, tu veux faire des commentaires? Steve Crocker prend la parole. C'est une liste très longue. Je ne veux même pas arriver à la moitié de tout cela. Hein. Ma réaction quand j'entendais tout ce que tu as dit, c'est que je voudrais changer un peu l'ordre et que mes réponses vont démarrer dans les bureaux principaux et puis passer dans à d'autres sujets. Je plaisante. Hein. On va aborder un quart à peu près. On va pouvoir aborder le 25% des points que vous proposez. Je vais établir certaines priorités et voir jusqu'où on peut arriver. Engagement pour l'intérêt public et je vais demander à mes collègues de poser des questions ou des questions au conseil d'administration, la Norvège. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question spécifique à poser sur une candidature spécifique qui nous amène à une question générale. En ce qui concerne les spécifications d'intérêt public, ceci a trait à la candidature de point IDN. Suivant le guide de candidature, la section 22141 est un code alphabétique de 3 lettres. Ma question... suivant la norme ISO 3166, si l'on ne permet pas de candidature à 3 lettres, que va-t-on faire? C'est l'information que nous avons dans le guide. Le PIC pour la candidature, on dit que l'on a demandé un changement pour changer justement la chaîne de caractère à point Internet au lieu de mettre point IDN. Ma question est donc la suivante. Est-il possible dans le processus de candidature de changer une chaîne de caractère? Et dans ce cas, parce que dans l'information qui se trouve sur le site web, la candidature au point IDN est toujours en cours d'évaluation. Et si l'on permet des changements de la chaîne de caractères, la question suivante sera si cela va changer le processus d'évaluation des candidats. Parce que, d'après ce que je comprends, on n'a pas publié l'existence d'une candidature pour point Internet en tant que telle. Il va y avoir donc des alertes précoces, une période d'alerte précoce pour ça. Et le GAC doit se baser sur quelle chose pour donner son avis sur la chaîne de caractère. Voilà ma question spécifique. Et puis, j'ai des questions de suivi à poser. Steve Crocker, c'est Christine qui va répondre à cette question. Christine Willett, la candidature .idn est une candidature qui a passé la procédure des candidats. Cette candidature n'a pas eu de succès lors de la révision et elle n'est pas éligible pour révision dans l'évaluation initiale ou dans un autre aspect du programme. Alors, ceci conclut l'évaluation de la candidature à ce point-là. Steve Crocker. Quelle est la confusion du point Internet à propos du point Internet? Christine, je ne sais pas si on a présenté une candidature pour le point Internet. Si l'on a présenté une candidature pour sa chef de caractère, mon équipe me dit que non. Norvège. Un commentaire sur votre réponse. On devrait dire alors que le point IDN a été rejeté. Ça explique mieux la question, parce que de la manière dont on le voit maintenant, il semblerait que c'est toujours une candidature valable qui est en cours du processus. Le candidat a été notifié, il a reçu une annonce et nous attendons à ce que ce candidat retire la candidature et que les fonds soient remboursés. La Norvège, c'est maintenant Heather Dryden qui passe la parole au Danemark. Merci d'avoir clarifié cette question en particulier. Je crois que cette question nous amène à une autre inquiétude, un autre souci que nous avons, qui concerne les candidatures qui sont de plus en plus compliquées. Les spécificités du PIC ajoutent encore des complications à tout cela. Plusieurs documents existent où le candidat explique son intention ou les conditions et les engagements. Mais c'est confus pour les gouvernements d'identifier quel est le texte le plus important, s'il y a des priorités entre les différents documents. Nous avons la candidature de janvier 2012. Il y a les spécifications des engagements d'intérêt public et puis il y a un contrat avec le registre. Cela est difficile, non seulement pour les gouvernements, mais pour d'autres parties intéressées. C'est difficile de savoir où est-ce que l'on doit trouver les engagements du candidat. Et voilà donc mon souci. Merci, Heather. Merci, le Danemark. Christine, tu veux répondre? Christine, merci Heather. Les spécifications des engagements d'intérêt public ont été conçues en réponse aux alertes précoces du GAC pour offrir aux candidats l'occasion de clarifier, de préciser les engagements spécifiques envers la communauté dans l'intérêt public. Voilà donc pourquoi, si les candidatures sont trop longues, avec beaucoup de pièces jointes, avec beaucoup de documents, l'intention a été justement que ces spécifications d'engagement d'intérêt public puissent offrir aux candidats une manière précise de spécifier quels étaient les engagements et de permettre aux membres du GAC de réviser, de revoir ces engagements à la lumière des alertes précoces ayant été reçues. Merci, dit Heather. L'Australie, merci. Bonjour à tous. La salle est pleine encore une fois. J'ai plusieurs questions générales sur les spécifications des engagements d'intérêt public et des processus concernés. En particulier, je suis intéressée par ce qui se passe lorsque l'on présente une dispute, lorsqu'il y a une dispute sur une question en particulier. Il y a quelqu'un qui présente une dispute, je crois que le terme, c'est le dommage matériel. Quelle est la capacité des gouvernements pour présenter des soucis si un PIC n'est pas respecté, si un engagement d'intérêt public n'est pas respecté? Par exemple, si un gouvernement présente un souci par rapport au regroupement, si un engagement n'a pas été respecté. Je voudrais savoir si cela est possible et s'il faut que l'on tienne compte de cela. La deuxième chose est liée au coût. Je n'ai vu aucune estimation des coûts dans le processus de résolution de litige du PIC, mais je crois que cela est modelé sur d'autres processus et qu'il faut adopter une solution légale. Cela peut être important, notamment pour le consommateur. Et troisièmement, a trait à la question posée par mes collègues. Elle concerne la certitude légale qu'a présenté la question des candidats qui respectent leurs engagements et ce qui semblerait être des questions. Eh bien, je ne sais pas très bien le mot approprié pour en ce qui concerne la mission et l'objectif de ces déclarations. Nous avons donc un processus d'engagement d'intérêt public et je voudrais savoir quelle est la possibilité de modifier les engagements d'intérêt public. Si je comprends bien, il est possible de les changer. Je voudrais savoir si l'on va penser quelque chose là-dessus et s'il y a d'autres qui aient des soucis parce que l'on parle des engagements d'intérêt public, comment ces changements vont-ils être inclus? On peut ne pas avoir une réponse immédiate, mais je voudrais comprendre comment ça va se passer. Merci, l'Australie. Je crois que Sherine va répondre.
Très bien. Merci pour ces commentaires. Je pense que je vais répondre à une partie et puis Chris va répondre à la deuxième partie de votre commentaire sur les modifications potentielles des PIC. La question par rapport à la capacité du GAC à présenter des réclamations ou des objections, notamment dans les cas où il n'y a pas d'évidence ou des preuves de dommages matériels et concernant le coût. Je pense que nous devons trouver la façon de soutenir le GAC pour pouvoir réaliser cela. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On va réfléchir avec le personnel à ça et nous allons trouver un moyen de le faire. Chris, est-ce que tu voudrais parler des engagements d'intérêt public, PIC? Je m'excuse. Je n'ai pas bien compris la deuxième question. Est-ce vous parlez des ces engagements d'intérêt public? La situation est la suivante. Le comité d'intérêt public a des obligations contractuelles par rapport à ce processus. L'ICA a des processus spécifiques pour mettre en place des changements dans les contrats. Tout changement introduit dans un contrat doit passer par ce processus. Or, il n'y a aucune partie de ce processus qui fasse référence spécifique au fait que ces changements doivent être demandés auprès du GAC. Mais je pense qu'il y a un processus existant, il y a une période de consultation publique. Je m'excuse, mais quelle était la deuxième question que vous m'aviez posée? L'Australie prend la parole. Ma question concerne les coûts. Si vous avez déjà réfléchi à quelles sont les implications des coûts des consommateurs lorsqu'il y a un processus de règlement de litige concernant un PIC. Chris prend la parole. Le coût, c'est difficile à chiffrer. Il s'agit bien sûr d'un découragement, de quelque chose qui décourage. Mais la question est oui, on a pensé à un coût. Il doit y avoir un coût, sinon ce serait quelque chose de gratuit. Mais je ne sais pas si Christine souhaiterait ajouter quelque chose par rapport à cette question en particulier. Vous n'êtes pas obligé, hein? Christine prend la parole. Merci. Pardon, Heather prend la parole. Le Danemark. Danemark prend la parole. Je m'excuse de prendre encore la parole. Je pense que le GAC doit bien comprendre quel est l'état des différents documents. Si j'ai bien compris ce que Christine a dit, les gouvernements et les autres parties prenantes peuvent regarder ces engagements d'intérêt public. Et indépendamment des candidatures des candidatures de janvier 2012. Christine prend la parole. Les candidatures montrent en général l'intention du candidat, comment il entend faire fonctionner ce TLD. Toutes les candidatures sont révisées et évaluées. Les engagements en matière d'intérêt public concerne une partie de la candidature, à savoir quels sont les engagements du candidat qui n'apparaissent pas, c'est des engagements qui n'apparaissent pas forcément dans la candidature. Donc par rapport à ce que vous avez demandé, les deux documents sont évalués et révisés. En ce qui concerne les alertes précoces qu'on a reçues, les spécifications des engagements d'intérêt public avaient pour but d'aborder, donner une réponse à ces alertes précoces. Heather prend la parole. Merci Christine, Commission européenne. Commission européenne prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes enregistrés et donc j'aimerais que les choses soient claires. Monsieur Chalabi a dit que le GAC pouvait recevoir des réclamations et qu'on pouvait utiliser donc ce processus de règlement de dispute par rapport au PIC. Si nous en tant qu'autorité gouvernementale, on peut utiliser ce système. C'est correct, dit Chalabi, Commission européenne. Merci. Heather prend la parole. Nous allons avancer au point suivant qui concerne la protection des acronymes, des sigles et des noms des OIG, notamment dans la série actuelle de GTLD. On sait que le GAC vous a fourni une liste récemment. Nous avons reçu une lettre du conseil d'administration en demandant des précisions par rapport à trois points. Voilà, c'est un point de l'ordre du jour qui a été proposé par le conseil d'administration. Je vais donc demander à Chris qui a été responsable de ce sujet auprès du conseil d'administration, de prendre la parole. Chris Despain prend la parole. Je vais donc aborder plusieurs étapes d'un raisonnement pour arriver à une conclusion. Tout d'abord, il faut évoquer certaines circonstances qu'on a évoquées qui ne sont pas correctes. Que le conseil d'administration a protégé le sigle du COI. Et cela n'est pas correct. Le Comité olympique international, le CIO. Cette protection concerne les noms et non pas les sigles du Comité olympique international et de la Croix-Rouge. Il existe aussi une suggestion sur laquelle la résolution du 26 novembre dit que nous allons protéger les noms et les sigles, et ce n'est pas le cas. La résolution dit que le conseil d'administration demande à la GNSO de donner leur avis ou leur conseil avant 28 février, pour voir s'il existe un intérêt public mondial pour que le conseil d'administration décide de l'inclusion d'une protection de deuxième niveau pour les noms et les acronymes des OIG, de certains OIG. Compte tenu de l'avis du GAC, l'avis pour protéger les noms des OIG, cela pose un souci parce que il y a des parenthèses pour respecter les langues. Et en plus, il n'y a pas un processus suggéré pour mener à bien cette révision. On a parlé d'une révision de 3 ans et cela ne pourra pas être mis en place. En ce qui concerne les sigles et les acronymes, cela pose aussi un problème. Ce que nous disons dans la lettre que nous vous avons envoyée, c'est que nous savons que l'avis fait référence au fait de réserver les sigles, mais de permettre aux OIG concernées de donner leur consentement pour l'enregistrement. Cela, du point de vue des principes, signifierait que l'Église d'Angleterre aurait besoin que le Conseil d'Europe donne son consentement pour approuver COA.church. Ce serait le même cas pour le gouvernement, avec le gouvernement du Canada pour l'approbation de la communauté andine pour enregistrer CA. Quelque chose. Ce qui veut dire que les organisations internationales ne pourraient pas enregistrer ISO. Quelque chose. Donc, la mise en place de cet avis pose vraiment beaucoup de difficultés. Par exemple, quel OIG va dire qui donne le consentement? Dans quel délai ce consentement sera donné? Que se passe-t-il s'il n'y a pas une réponse positive? Quels sont les critères qu'on va utiliser pour savoir si le consentement est accordé ou pas? Qui va rédiger ces critères? Les critères vont-ils être appliqués à tous les OIG ou bien chaque OIG aura son propre groupe de critères? Le conseil d'administration considère que toutes ces questions rendent presque impossible d'accepter l'avis du GAC tel qu'il est suggéré. Au lieu de refuser cet avis, ce que nous voulons, c'est que le GAC reconnaisse dans son communiqué qu'il existe des questions sur lesquelles il faut encore se pencher plus en profondeur et qu'il faut arriver à un accord avec le GAC, que l'on va travailler avec le conseil d'administration et le personnel d'ici jusqu'au moment où le conseil d'administration prendra une décision finale. Merci. Heather prend la parole. Chris, je pense que c'est une demande claire adressée au GAC. Est-ce que quelqu'un du GAC souhaiterait faire un commentaire en ce moment? Sinon, après, on pourra en débattre dans la réunion du GAC. Nous allons donc passer au point suivant de l'ordre du jour en ce qui concerne les GTLD. Nous avons une question liée au singulier et pluriel du même mot dans les domaines de haut niveau. Je demande à l'Australie de présenter ce point. L'Australie prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous avons écouté des débats préliminaires sur les résultats des conflits avec des chaînes de caractère, des conflits qui se posent de par les formes plurielles de certains noms que l'on considère pas en conflit avec le singulier, par exemple auto avec S. Nous voudrions savoir s'il y aura des critères pour savoir quels sont les conflits qui se posent ou les confusions qui pourraient se présenter, parce que nous croyons qu'il peut y avoir des confusions auprès des consommateurs. Nous avons écouté des débats au sein de la communauté et cet intérêt semble être partagé. Nous voulions donc demander au conseil d'administration si vous étiez intéressé à cette possibilité de problème et quel en est votre avis. Heather prend la parole. Merci l'Australie. Sherine, souhaitez-vous y répondre? Sherine Chalabi prend la parole. Merci d'avoir soulevé ce point. Comme vous le savez, il y a un panel indépendant qui a analysé ces chaînes de caractères et a décidé qu'il n'y avait pas de conflit en lui-même. La question est de savoir comment on continue à partir d'ici. En ce qui concerne le comité des nouveaux GTLD du conseil d'administration, on en reste là. Je ne vais dire rien d'autre, je ne vais rien ajouter à ce qui a été dit par le panel indépendant. Maintenant, la balle est dans votre camp. Est-ce que vous allez donner un avis par rapport à cela? Parce que de notre part, je pense qu'il n'y a aucune intention de dire quelque chose contre la décision des panels indépendants. Chris Despain prend la parole. Je vais juste ajouter que le panel a analysé la similitude visuelle. Si vous pensez que cela peut poser un problème, je ne veux pas arriver à une conclusion ici, mais je pense que le panel a analysé ce que vous considérez que peut poser, qui peut poser un souci. Et le panel a déclaré, a considéré que cela ne posait pas de confusion visuelle. C'est ce qu'on nous a dit et c'est pour cela que les pluriels ne rentrent pas dans les chaînes de caractère en conflit. Hiedert prend la parole. Merci. Nous avons maintenant une question du Kenya. Une question liée au processus mis en place pour établir, pour savoir si un candidat a respecté les exigences de soutien de la part des gouvernements pour obtenir un nom géographique. Le Kenya prend la parole. Comme tout le monde le sait, au sein de l'Union africaine, il y a un mandat des 54 gouvernements africains pour établir Point Afrique. Il y a une autre candidature qui a été présentée, Point Afrique. Alors que Point Afrique, dans le guide du candidat, cela n'était pas défini comme un nom géographique. Or, comme l'ICAN a permis des modifications, cela a eu pour conséquence qu'il y ait un conflit entre ces deux candidatures. Si cela s'applique, et donc cela concerne maintenant les noms géographiques qui ont besoin d'un soutien des gouvernements. Il y a 41 gouvernements africains qui ont présenté des réclamations par rapport ou des objections par rapport à cette candidature. Toute la procédure a été suivie. Nous avons participé à ce numéro 307 de la liste, tout comme d'autres 16 gouvernements. Et comme l'Afrique est l'un des noms géographiques définis par l'UNESCO comme une région continentale, la désignation d'un TLD comme Afrique en tant que nom géographique est correcte du point de vue technique et du point de vue des procédures. L'idée est donc de savoir s'il y aura une protection réelle pour les gouvernements africains et la communauté panafricaine. Au nom donc de mes collègues africains, et je sais que la Commission de l'Union africaine va dire quelque chose par rapport à cela, je souhaiterais manifester notre inquiétude par rapport à quelque chose qui nous semble suivre un rythme trop lent. Notre perspective, c'était que le panel géographique précise d'ores et déjà, quel est ce problème? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous pensons que ce retard, c'est une façon d'interférer avec le mandat des commissions de l'Union africaine et du projet de l'Union africaine. Nous considérons qu'il s'agit d'une interférence continue et que ce retard crée des obstacles à la recherche d'une solution. Cela a des implications économiques et sociales pour l'Afrique. C'est pourquoi nous voudrions savoir quelles sont les raisons de ce retard et pour quand on pourrait attendre une résolution. Merci, le Kenya. La Commission de l'Union africaine, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. C'est la Commission de l'Union africaine qui prend la parole. Merci, Présidente. Merci, le Conseil d'administration, de nous donner cette occasion d'échanger avec vous. Il y a une liste de réussites par rapport auxquelles je souhaiterais vous féliciter d'avoir fait en sorte que l'ICAN soit un environnement qui permette la participation de tous les membres. Mais vu les contraintes de temps, je ne vais dire que merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, notamment en ce qui concerne le continent africain. Je voudrais résumer ce que Alice, la représentante du Kenya, vient de dire. Alice est aussi représentante de la Commission de l'Union africaine. La question à laquelle nous sommes confrontés est assez simple. L'Union africaine et les utilisateurs de cette communauté, ce n'est pas une décision politique, mais c'est la communauté qui a demandé à ce que soit établie et gérer ce nom de domaine .afrique. Il y a eu un processus du ministère des Affaires étrangères, c'est passé au chef d'État, et finalement, la résolution a été adoptée unilatéralement, la décision donc de mettre en place ce TLD. Notre question est très claire. D'après le guide de candidature, la condition fondamentale pour obtenir ce type de nom de domaine, c'est de bénéficier d'un soutien de 60% des États membres. Nous avons cela. Ceci dit, cette année, c'est le 50e anniversaire de l'Union africaine et de la communauté de l'Union africaine. Les gens sont très sensibles aux réussites et aux symboles de l'intégration. C'est très important pour l'Afrique, l'Afrique qui entame un processus de cohésion. Et ce nom de domaine .afrique est important. Pourquoi n'avance-t-il pas comme prévu? Nous pensions que comme l'autre candidat ne bénéficie pas du 60% de soutien, sa candidature allait être refusée. Alors pourquoi perd-on du temps, des ressources et du temps? Ici, nous voudrions donc savoir où nous en sommes, vers où nous allons et dans quel délai nous allons pouvoir mettre en place ce nom de domaine. Merci encore. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis Dakar jusqu'ici. Nous avons eu beaucoup de réussites en Afrique. Mais quand on aura davantage de temps, je pourrai mieux exprimer mes remerciements.
Heather, merci beaucoup de votre participation en tant qu'Union africaine. Chérine Chalabi, en premier lieu, merci aux collègues de l'Afrique d'avoir présenté cette question dans cette réunion. Nous savons que vous avez un grand soutien. Depuis la perspective du Conseil, je crois qu'il ne serait pas approprié de faire des commentaires sur une candidature en particulier en ce moment. Mais permettez-moi de vous dire que il n'y a pas eu de délai fondamental. La raison pour cela, c'est que le test géographique est réalisé comme une partie de l'évaluation initiale. Ce n'est pas une autre démarche. C'est fait en même temps ou même avant. Alors, nous ne croyons pas qu'il existe un retard dans le système. Je vais demander à Christine ou à un autre membre du personnel s'ils veulent ajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Je m'appelle Akram. Nous n'allons pas faire de commentaires sur une candidature en particulier. Les candidatures respectent le processus prévu et la priorité n'est pas arrivée au point où nous en sommes. Voilà pourquoi il n'y a pas de retard ou des accélérations. Lorsque le moment sera arrivé de la priorité de la candidature au moment de l'évaluation initiale, il va y avoir une annonce pour les candidatures dans le moment approprié. Heather, merci Akram. La Suisse a la parole. Merci, Madame la Présidente, et je m'excuse d'être arrivée en retard. J'ai une question par rapport aux commentaires qui ont été faits sur les OIG et la réaction à la proposition des OIG. C'est peut-être un peu naïf, mais compte tenu que l'ICAN a pu trouver une solution avec le Bureau central des marques, traitant des marques de deuxième niveau. Je me demande pourquoi on ne peut pas développer quelque chose de semblable pour quelques 200 noms ou acronymes d'OIG. Je crois que ce qui a été réalisé dans le Bureau central de marques doit servir comme inspiration pour pouvoir faire quelque chose dans ce sens. Heather, merci. Je crois que la question a été prise en compte. Nous pouvons donc avancer. Je regarde le Brésil pour qu'il pose sa question. Ah, pardon? Pardon. De quoi voulez-vous parler, la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande a la parole. Merci, Heather. En ce qui concerne la question soulevée par les représentants de l'Afrique, je voudrais savoir où on en est avec Point Afrique dans le processus pour savoir quels sont les délais concernant cette candidature. Merci. Christine? Il y a une demande, une candidature, pardon, de Point Afrique qui a la priorité 307. Et puis, il y en a une autre, Dot Afrique, qui a le numéro 1005. Vendredi dernier, nous avons présenté l'évaluation initiale jusqu'à la priorité numéro 108. Et nous publions 30 par semaine. On veut arriver à 50 par semaine. Ces candidatures font toujours l'objet du processus d'évaluation initiale. Christy Spain. Pardon, Christine, pourrais-tu parler des conflits jusqu'aux chiffres les plus élevés pour l'octroi de priorité? Christine Willett. Oui. Les groupes en conflit n'ont pas, pardon, les chaînes de caractère en conflit n'apparaissent pas ensemble. Quand on fait le tirage au sort pour les priorités, on a eu l'idée de consolider des groupes en conflit et les évaluations sont faites selon l'octroi de priorité des résultats, donc elles sont publiées sur la base des numéros de priorité. Heather, je vois que là aussi demande la parole, mais peut-être vaut-il la peine de dire que il y a une énorme sympathie au sein du GAC pour les collègues africains et pour leurs soucis quant à la candidature. Ne vous trompez pas avec ce que nous pensons de la candidature. La Commission de l'Union africaine, merci. Nous avons pris vos paroles comme... C'est-à-dire, on va en parler demain. Chris, pour une question pour Christine. Je suis le numéro 38. Je dois attendre jusqu'au numéro 1008 pour que ma candidature soit évaluée? Voilà ma question. Christine, chaque candidature est évaluée de manière indépendante? On ne peut pas les comparer d'aucune manière. Alors, si votre candidature était la candidature numéro 38, le résultat va être présenté en séquence. Il y a des candidatures, en fait, il y a 15, pour lesquelles les résultats d'évaluation initiale n'ont pas encore été publiés. Et ils font l'objet de changements, à des demandes de changements. Il y a des questions supplémentaires pour obtenir des précisions ou ils font l'objet de demandes d'informations manquantes, etc. Voilà donc pourquoi nous suivons un processus et nous nous attendons à ce que les résultats soient publiés dans les semaines qui viennent. Notre processus d'évaluation est fait en établissant un ordre de priorité. Heather, merci. Christine. Chris va répondre à la question. Chrissy Spain prend la parole. J'essaie de comprendre la question pour pouvoir répondre à notre collègue de l'Union africaine. Christine, corrigez-moi si je me trompe, mais d'après ce que je comprends, l'évaluation du numéro 307 va avoir lieu et ses résultats seront publiés. Et étant donné qu'il y a d'autres candidatures qui se trouvent dans un ensemble conflictuel en ce moment, il faut attendre jusqu'à ce que cette candidature soit résolue. C'est correct, il faut attendre jusqu'à ce que cette candidature soit évaluée. Si l'on trouve que l'évaluation est rejetée, que la candidature est rejetée, ou si les deux candidatures sont approuvées, alors là, il faut aborder le processus de résolution de différends. Pour être clair, je crois que vous ne comprenez pas très bien que l'évaluation pour voir si la candidature est géographique, un test géographique ou pas, est faite séparément de l'évaluation initiale ou même avant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça fait partie de l'évaluation initiale. Lorsque l'on fait l'évaluation de la candidature, le panel géographique établit s'il y a une question géographique. Je sais que peut-être vous n'aimez pas le fait qu'il y ait une candidature qui vient après la vôtre, mais le processus est celui que je viens d'expliquer. Fadi, le temps normalement est de 2 mois. Toutes les évaluations vont être faites au mois d'août et la deuxième est la numéro 1000. C'est prévu pour le mois d'août. On ne parle que de quelques semaines. Heather, la Norvège a quelque chose à dire? Non? OK. Nous allons donc passer au Brésil. Je vous remercie de votre patience. Merci, Heather. Avant de poser ma question, permettez-moi d'exprimer que le Kenya de l'Union africaine a le plein soutien du Brésil sur Point Afrique. Je crois qu'il est important de souligner cela. Permettez-moi aussi de remercier M. Fadi Chehadé de ses propos si gentils lors de la cérémonie d'ouverture d'hier. Ma question est liée au délai de la mise en place du programme de GTLD. Il y a eu un débat très intéressant avec M. Akram Atala jeudi dernier, et puis on a reçu des informations très importantes dans le GAC, dans le sens que les 31 IDN ou GTLD qui sont en processus vont être prêts pour avoir les contrats signés le 23 avril. Comme vous le savez bien, le GAC donnera ses conseils dans les plus brefs délais et ses avis peuvent avoir référence à ces candidatures pour pouvoir signer les contrats le 23 avril. Ma question est donc la suivante. Il semblerait que ces deux délais sont superposés et qu'ils ne sont pas compatibles et je voudrais écouter les points de vue du conseil d'administration sur ce point que je viens de mentionner. Merci. Heather, Fadi, s'il vous plaît, Fadi Chehadé, laissez-moi préciser que l'objectif est de nous préparer pour autour du 23 avril pour commencer à signer certains contrats avec certains nouveaux registres. Voilà, franchement, c'est ça l'objectif. Ce n'est pas une date fixe. On travaille avec les bureaux, avec les registres, pardon, pour finir les accords avec eux. Il va y avoir une période de commentaires publics que l'on est en train d'analyser maintenant. Sans doute, vous vous êtes rendu compte que nous travaillons plus rapidement pour que tout soit prêt en temps opportun, mais il n'y a pas d'engagement pour une date prévue spécialement. Nous attendons votre avis. Cela va faire partie de notre évaluation, de notre planification. Et sur la base de tout cela, sur la base de l'apport de la communauté, nous serons en mesure d'avancer. Aucune date va nous amener à faire quelque chose qui ne soit pas fait dans l'ordre correct, ni à considérer votre avis sans l'avis de la communauté. Vous avez toute ma confiance dans ce sens. Heather, merci Fadi. Le Brésil, merci Monsieur Chehadé. Heather, vous avez mentionné les contrats avec les registres. Et je crois que cela nous amène à l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement. Et là, le GAC a déposé son attention depuis quelque temps. On a entendu parler des organismes d'application de la loi et nous savons que les négociations sont déjà en cours. Nous avons quelques questions à vous poser, mais si vous pouvez nous actualiser la question de ce qui est en cours, eh bien, ce serait très utile pour nous. Je regarde pour voir comment on peut commencer. C'est Fadi Chehadé qui prend la parole. Il s'agit d'une question que j'aime bien informer. Les bureaux d'enregistrement ont négocié les nouveaux accords avec l'ICANN depuis plus de 20 mois. J'ai participé très activement dans ce processus pendant les deux derniers mois et demi. Et j'ai fait cela parce que je vous ai entendu, j'ai entendu la communauté, j'ai entendu beaucoup de personnes et j'ai compris très clairement qu'il faut fermer le RAA, conclure le RAA et introduire des pièces critiques que vous avez indiquées comme étant des parties très importantes. Importante ici et dans d'autres parties de la communauté. Je suis heureux de vous informer que vous-même et les bureaux d'enregistrement et sur la base des accords qui ont été publiés il y a quelques semaines, nous sommes arrivés en principe à un accord pour pouvoir avancer avec le RAA de l'an 2013. Le RAA de 2013 inclut certaines modifications ou certains ajouts que je vais vous mentionner très brièvement. Les 12 recommandations des organismes d'application de la loi, j'insiste, les 12, ont été incluses dans la nouvelle version du RAA. Par exemple, le WHOIS et l'information téléphonique font maintenant partie du processus. Là, les organismes d'application de la loi ont quitté la table l'année dernière. C'est plus de ce qu'eux, ils savent. Hein. Voilà pourquoi nous avons pu travailler avec les bureaux d'enregistrement pour l'amélioration des dernières positions. Deuxièmement, il y a des points de contact sur l'abus pour l'application de la loi. Cela est garanti avec les bureaux d'enregistrement. Et troisièmement, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'il y a eu un PDP en marche pour les spécifications de proxy confidentialité. Nous avons travaillé avec les bureaux d'enregistrement pour inclure une spécification de proxy confidentialité temporaire pour que les protections soient incluses jusqu'à ce que le PDP soit complété. C'est un ajout vraiment fantastique à cet accord. C'est génial. Nous avons aussi créé des accords d'obligation de rétention de données. Nous savons que les dates dont ils ont besoin sont là lorsqu'on en a besoin. Il y a aussi un nouveau SLA du WHOIS qui aborde pas mal de questions qui sont apparues à partir des organismes d'application de la loi. Et il y en a un qui est très important pour moi, c'est que nous avons amélioré les remèdes ou les solutions pour le respect de ces accords. Nous avons aussi les solutions nécessaires pour arriver à nos objectifs. Nous avons aussi ajouté une interdiction contre le cyberdélit dans nos accords et nous avons de nouvelles spécifications pour le DNSS et pour l'IPv6 afin de nous assurer que ces spécifications soient promulguées à temps. Et puis, je reviens aux derniers trois que je veux signaler tout particulièrement parce que ce sont les trois les plus importants. Premièrement, nous avons étendu les obligations des bureaux d'enregistrement envers les résultats des revendeurs et nous demandons pour la première fois de nous donner les noms des revendeurs. Cela est très important. Vous imaginez pourquoi? Le deuxième des trois derniers, nous avons accordé avec eux un nouveau document de droits et responsabilités des bureaux des registrants qui n'est seulement pas inclus dans le contrat et qui est applicable à partir du contrat, mais on a accordé également la manière de comprendre très simple, avec une rédaction simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Et nous allons promouvoir cela avec eux. Il ne s'agit pas seulement de la promotion d'un document, mais ce document est contraignant comme une partie du contrat. Nous avons créé également pour la première fois dans cet accord une route pour les négociations et pour les modifications. Alors, pour ne pas avoir à utiliser encore 20 mois pour amender le contrat, vous devez avoir entendu parler de cette partie du contrat. Mais nous, en ce moment, nous avons deux modifications toutes neuves à cet accord. La première est dénommée une modification extraordinaire conçue pour permettre au Conseil des cas bien définis dans l'intérêt public avec des raisons importantes pour modifier effectivement le contrat. Nous allons aussi inclure un autre processus de modification nous permettant de faire une demande à tout moment pour s'asseoir avec eux et modifier le contrat. Nous allons agir dans ce sens. Nous allons avancer dans ce sens. Je vous donne donc les composantes de plus haut niveau de cet accord négocié ardument. Ce sont des démarches très importantes vers l'avant dans beaucoup de sens. Et nous avons complété toutes ces démarches de bonne foi avec les registrants. Je tiens à vous dire que nous avons fait tout cela avec l'esprit et nous pouvons demander au bureau d'enregistrement et à tous qui sont familiarisés avec ce contrat disponible pour commentaire public. Nous avons fait cela dans l'esprit de la responsabilité. Nous avons parlé avec les bureaux d'enregistrement pour que nous puissions présenter collectivement notre responsabilité vis-à-vis du public et nous croyons que c'est ce qui est correct. L'industrie a répondu et a besoin, l'industrie a répondu à ma demande d'aller au-delà des négociations et comprendre que nous avons la responsabilité envers le public et dans l'intérêt public. En conséquence, nous avons besoin que vous travailliez avec nous. Quand nous voyons cette liste, c'est vraiment très, très impressionnant. Je suis heureux de tout le travail. Je vous demande de considérer que nous avons négocié tout cela de bonne foi et voilà donc l'accord qui est sur la table. On est toujours dans la période de commentaires publics. Nous allons publier le contrat complet. Les révisions sont limitées à ce que l'on a publié, mais il n'y a pas de nouveau domaine à débattre depuis que nous avons posté le contrat pour commentaire public. Nous allons émettre une version légèrement modifiée qui inclut tout ce qui a été accordé et cela devrait être publié ce week-end. Nous espérons bien pouvoir travailler avec vous et avec eux afin de favoriser l'intérêt public et expliquer comment travaillent les bureaux d'enregistrement.
Merci Fadi. C'est Heather qui prend la parole. Union européenne, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président pour cette mise à jour. Votre implication personnelle dans ces négociations complexes ont bien été prises en compte et nous vous en remercions car cela a été vital pour le résultat obtenu. L'Union européenne ne prend pas de position sur ces questions jusqu'à voir le contrat. On sait que les contrats ne sont pas encore finalisés. Nous réservons jusqu'au moment d'avoir vu les contrats, mais je voudrais signaler que nous sommes dans une séance ouverte et notre position et la suivante, nous sommes en tant que parti du GAC. Nous devons vous donner des indications politiques sur ce qui est important d'inclure dans ces contrats. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse avoir les détails de des contrats. Et notamment en ce qui concerne les CAN et les bureaux d'enregistrement. Je voudrais avoir une confirmation de vous et du conseil d'administration que vous avez compris combien il est important pour l'Europe de travailler ensemble contre le crime cybernétique. Nous avons présenté l'initiative contre le crime européen et c'est pour cela que nous avons des droits à protéger. Nous sommes ici non seulement pour protéger la confidentialité, mais les droits en général et pour assurer que l'état de droit soit préservé. Nous comprenons et nous concluons à partir de tout ce qui a été dit que dans la nouvelle version des accords, il y a des procédures prévues pour s'assurer que les bureaux d'enregistrement respectent les lois des différentes juridictions. pour que les lois européennes ne soient pas enfreintes, ce qui ne serait pas acceptable. Je voudrais juste dire à M. Fayadé et au conseil d'administration que ce processus doit être respecté et doit être préservé. Merci. Fadi prend la parole. Je peux vous confirmer que c'est le cas. Riaz prend la parole. Les États-Unis prennent la parole. Merci, Présidente, et merci, Fadi, pour cette mise à jour, certes très bienvenue que nous saluons, sur cette importante initiative. Nous sommes très reconnaissants des efforts qui ont été déployés et nous espérons voir le document final. Mais je pense que vous pouvez vous attendre à des commentaires par rapport à cela dans le communiqué du GAC. Merci, les États-Unis. C'est Hedel qui prend la parole. L'Australie et puis Fadi voudraient faire des commentaires peut-être. Merci, l'Australie prend la parole. Je voulais juste ajouter, me faire l'écho des sentiments de mon collègue de l'Union européenne. Il s'agit d'un progrès très salué par nos pays. Bien évidemment, c'est quelque chose que le GAC attend depuis longtemps. Et donc, je voulais faire un commentaire positif et remercier de ces progrès et exprimer mon remerciement aussi par le fait qu'hier, on a reçu la réponse à une demande d'avis du GAC sur les parties qui font la supervision contractuelle de l'ICANN. Je pense que cela fait partie d'un paquet plus ample qui inclut le RA, le RUIS, etc. Donc, merci pour ces deux choses. Fadi prend la parole. Merci. Je voudrais dire quelque chose qui soit enregistré au nom des bureaux d'enregistrement, dont certains sont ici, d'autres ne sont pas ici présents. Je voudrais que cela soit enregistré, que je suis vraiment ravie que les bureaux d'enregistrement n'ont pas dû être obligés à faire les choses correctement. Une fois qu'on a eu les conversations et les discussions, ils ont, de leur propre initiative, décidé de s'impliquer. Nous avons un nouvel esprit au niveau de la communauté, un esprit de responsabilité et de compréhension. Et c'est la façon de travailler. Je voudrais les remercier pour l'excellente coopération que nous avons eue de leur part. Merci. Merci, Fadi. Khedel prend la parole. Y a-t-il d'autres commentaires sur cette question? Je ne vois pas des demandes de prise de parole. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne nous reste que 5 minutes. Et je sais que le conseil d'administration doit assister à une autre réunion. Je pense donc que nous avons une question, une demande de mise à jour par rapport au conflit d'intérêts. Union européenne, est-ce que vous souhaiteriez prendre la parole par rapport à cette question? Merci, Madame la Présidente, d'avoir soulevé cette question. C'est l'Union européenne qui prend la parole. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons bien pris note de la volonté du conseil d'administration de répondre à nos questions, mais je voudrais avoir une mise à jour sur l'état des lieux du travail de mise en place des recommandations en matière de responsabilité et transparence. La dernière fois, vous étiez sur le point de conclure 3 révisions internes. Nous avons reçu les résultats. Il y a eu une présentation sur l'une de ces révisions. Et puis, je suis un peu perdue depuis. Je n'ai pas entendu d'autres décisions prises par le conseil d'administration. Et nous voudrions, pas forcément maintenant, quand je dis nous, je dis l'Union européenne, nous voudrions recevoir une réponse écrite du conseil d'administration dans les plus brefs délais pour mieux comprendre quelle évaluation du conseil d'administration par rapport à où nous en sommes en ce qui concerne les recommandations qui ont été faites il y a quelques mois pour renforcer la politique concernant l'éthique et les conflits d'intérêts, non seulement pour le Conseil, mais pour l'organisation dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci pour la question. Je pense que Bruce Tonkin peut répondre. Bruce Tonkin prend la parole. Oui, ces trois révisions ont été achevées. Nous attendons à des changements et nous avons introduit des changements dans les procédures les plus pertinentes de l'organisation et du conseil d'administration. Nous allons revenir vers vous avec une communication écrite. Merci, Bruce. C'est Heather qui prend la parole. Nous avons quelques minutes. J'ai la question sur la Croix-Rouge et le CIO. Les États-Unis prennent la parole. Je vais être très brève. Je voulais tout justement communiquer au conseil d'administration l'engagement de longue date du GAC pour protéger ces noms au deuxième niveau. Et nous voudrions avoir des communications dans ce sens. Nous demanderions au conseil d'administration de bien vouloir préciser cela dans les accords avec les registres, parce que on dit maintenant initialement, on parle initialement de cette préoccupation et nous sommes inquiets à l'idée que cette protection pourrait disparaître dans l'avenir. Nous croyons que cette protection doit être mise en place de façon permanente avant la délégation des nouveaux GTLD. Nous voudrions donc soulever nos inquiétudes par rapport aux implications que cela a dans les processus d'élaboration de politique et prendre une position en ce qui concerne les traités que nous, en tant que gouvernement, avons signés et les lois que nous avons sanctionnées. En ce qui concerne la Croix-Rouge, on a parlé de deux niveaux de protection juridique, les traités internationaux et les législations nationales. Nous croyons qu'il existe un PDP dont nous faisons le suivi et où plusieurs questions ont été posées. Nous avons aussi des questions sur quel type de politique verra le jour à partir de ce PDP, avec les implications que cela peut avoir sur nos traités, sur nos lois. Je voulais tout juste signaler qu'il s'agit d'un grand souci pour nous. Heather prend la parole. Merci, les États-Unis. Sherine prend la parole. Je vais accepter la suggestion de Suzanne d'avoir un dialogue. Je vais essayer d'être tout à fait claire et sans ambiguïté dans ce processus. Pour dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce processus, nous allons donc suivre cette voie et continuer le dialogue en dehors de la réunion. Ce que je vous suggère, Heather prend la parole, c'est que l'on demande davantage d'informations sur les bureaux régionaux. La Commission européenne prend la parole. Très brièvement, Madame la Présidente, j'aimerais dire qu'il existe des points soulevés par rapport à d'autres organisations internationales et nous devrions faire un débat, que le débat doit concerner tout le monde. Nous devrions tous participer à ce débat. Heather prend la parole. Merci. Très bien. En ce qui concerne les bureaux régionaux, nous aimerions recevoir davantage d'informations. On espère que le Conseil pourra donner ces informations au GAC. Est-ce que vous pourriez donner ces informations brièvement, en une minute? On pourrait le faire. Afrique du Sud, voulez-vous poser votre question par rapport aux bureaux régionaux? Comme ça, on vous recevrez une réponse rapide. L'Afrique du Sud prend la parole. Dans la cérémonie d'ouverture, on a dit que l'ICANN ouvrait des bureaux régionaux dans deux régions. Je voudrais savoir comment on a décidé de la localisation de ces bureaux régionaux et puis en fonction de la réponse, je voudrais élargir ma question. Fadi prend la parole. On a envisagé plusieurs aspects, des questions logistiques, des questions juridiques, des questions liées à l'infrastructure, aux ressources humaines. Il faut se rappeler que les bureaux régionaux ont pour tâche de mettre en place nos opérations clés et couvrir tous les fuseaux horaires. Si quelqu'un appelle l'ICANN, il y aura donc quelqu'un 24 heures sur 24 pour répondre au téléphone. Cela donc est divisé par fuseaux horaires afin que on puisse répondre à tout moment aux questions qui pourraient se poser. Si quelqu'un d'Istanbul appelle, quelqu'un de l'Afrique pourrait y répondre, etc. Cela nous permet alors d'avoir une interaction entre les utilisateurs et l'ICANN avec les personnes qui se trouvent dans ces bureaux sans que l'on sache où ces gens sont localisés. C'est un critère qui est lié surtout au fuseau horaire. Il y a eu un processus de révision très complet qui nous a amené à établir ces trois bureaux régionaux. Khader reprend la parole. Merci Fadi pour cette réponse. Afrique du Sud, souhaitez-vous demander quelque chose d'autre? Le Kenya. Kenya prend la parole. Je voudrais remercier le directeur et le conseil d'administration de toutes les initiatives qui ont été mises en place dans la région africaine. Nous vous remercions pour tout le travail qui est fait actuellement. Merci. Heather prend la parole. Nous avons parlé des ATRT, de l'ATRT 2. Nous voudrions dire qu'il s'agit d'une priorité pour le GAC. Une grande partie de notre travail est focalisée sur cela. Au début de la semaine, nous avons eu un échange par rapport à cette question. Et finalement, pour conclure, merci à tous. Merci de nous avoir donné des réponses opportunes au communiqué de Toronto. Nous en sommes reconnaissants. Et nous espérons pouvoir nous réunir la prochaine fois pour continuer. Et nous espérons pouvoir continuer le débat en dehors de cette réunion par rapport à certains de ces sujets. Pour le GAC, nous avons une pause de 45 minutes et par la suite, nous nous retrouverons dans cette salle. L'IGF d'Asie-Pacifique, peut-être que vous pourriez rester quelques minutes dans cette salle. Donc, je demande à ceux qui voudront participer de rester dans la salle ou qui n'aillent pas trop loin. Le GAC, 45 minutes de pause. Steve Crocker prend la parole. Merci, Heather. Merci, merci à tous.
Good evening again, everyone. As there will be a brief meeting here, if we could start moving out of the room, please. There's plenty of room to talk outside, and we even encourage you to do that. So please, let us have our meeting for the next few minutes. Thanks.